VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. RDC, en référence au massacre à répétition dans l'est du pays, le célèbre chirurgien congolais Denis Mukwege a appelé aujourd'hui à un changement radical dans le pays en ce jour de commémoration de la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel chef de l'État Joseph Kabila. La région de Beni au nord Kivu jusqu'aux confins de l'Ituri voisine fait face à des massacres récurrents que les autorités et la mission de l'ONU à RDC attribue aux rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées ADF, présents depuis 1995 dans l'est de la RDC. Crise au Burundi, l'ONU se dit préoccupée par la situation dans le pays, en particulier la multiplication des arrestations. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
Nous sommes profondément inquiets de l'augmentation des violences et des informations sur de nombreux cas de détention ces derniers jours, a déclaré lundi Farhan Haq, porte-parole onusien. Cette situation pourrait être liée à l'approche du premier anniversaire de la tentative de putsch contre le président Pierre Nkurunziza, a souligné M. Haq, ajoutant que l'ONU suit de près la situation et réitère son appel au dialogue entre le gouvernement burundais et l'opposition. De nombreux jeunes gens ont été arrêtés la semaine dernière dans le quartier de Muzaga, dans le sud de Bujumbura, de même que dans la commune de Mugamba, province de Bururi, une conséquence de la multiplication des rafles menées par les forces de sécurité. La candidature, en avril 2015, du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat a été l'élément déclencheur de la crise que vit aujourd'hui le Burundi. La violence a fait plus de 500 morts et contraint plus de 270 000 Burundais à chercher refuge dans les pays voisins.
Aux Comores, le président élu Azali Assoumani a été proclamé vainqueur du second tour de la présidentielle du 10 avril avec 41,43% des voix. Ce second tour à suspense avait nécessité la reprise du scrutin dans 13 bureaux de vote alors que 2000 voix seulement séparaient Assoumani de son challenger direct Soilili Di Mamadou. Le journaliste comorien Ali Madi, directeur de Caribou Magazine à Moroni, nous parle des défis auxquels fait face le tout nouveau chef de l'État des Comores.
Alors les défis sont immenses aujourd'hui parce que tel qu'il a laissé le pays en 2006, la situation est presque la même. Aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, même au niveau de la capitale. Alors dans les régions reculées, ils n'ont pas du tout d'électricité. Alors toutes les routes sont délabrées sur le territoire national. Les jeunes, il y en a trop au chômage. Et vous savez, dans ce pays, il n'y a même pas un salaire minimum. Donc vous voyez que les défis sont énormes. Est-ce que le nouveau pouvoir va pouvoir y répondre? C'est la question. Sauf que dans la campagne électorale, on n'a pas entendu grand-chose qui puisse faire espérer par rapport à cette nouvelle élection.
Ali Madi, directeur de Caribou Mag, joint à Moroni, aux Comores. Au Nigeria, une course contre la montre est engagée pour éviter la grève illimitée que menacent de lancer les syndicats. Le gouvernement a entamé à Abuja des discussions difficiles avec les centrales syndicales qui réclament la baisse des prix du carburant. Michel Joseph.
Le gouvernement, le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress ont débuté hier à Abuja leurs discussions. Les deux centrales syndicales ont appelé à une grève illimitée pour réclamer la baisse du prix de l'essence à la pompe. Les discussions seront difficiles. Le Bureau national des statistiques a annoncé que l'inflation a augmenté en avril et, selon le sous-secrétaire d'État au pétrole, Emmanuel Kachikou, la production de pétrole brut a chuté à environ 1,4 million de barils par jour contre 2 millions il y a quelques années. Pour le sous-secrétaire d'État, la hausse du prix de l'essence est absolument essentielle pour relancer la croissance, améliorer la confiance des investisseurs et même pour la survie du Nigeria. De leur côté, les syndicats ont prévenu que si les négociations échouent, la grève générale débuterait dès demain mercredi. Les administrations aéroports, ports, banques, magasins et marchés devraient être affectés par ce débrayage.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Guinée, le président Alpha Condé dit vouloir laisser au peuple de décider s'il va ou non se présenter pour un troisième mandat. Des propos face à la presse dimanche qui ont provoqué une vague de réactions dans le pays. Le reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est une réponse qui fait débat en Guinée. À la question d'un journaliste sur sa candidature ou pas à la présidentielle de 2020, le président Alpha Condé a dit au cours d'une rencontre avec la presse que seul le peuple déciderait. Des propos qui trouvent quelques défenseurs à Conakry.
Parce que franchement, il a prouvé au peuple guinéen qu'il est guinéen et il travaille. Il a des projets. Mais il faudrait que les Guinéens le laissent terminer ses projets.
Je suis pour qu'ils se présentent. Parce qu'on a le courant. En tout cas, chez moi, j'ai le courant, j'ai l'eau. C'est tout problème de courant. Il a beaucoup fait, il a fait son mieux, son maximum. Ça fait de longues dates, on n'a pas connu de courant. Si on peut le laisser continuer encore pour améliorer plus, ça, je suis pour.
Améliorer, certes, même s'il le voulait, la constitution guinéenne, elle, dit le contraire. Le mandat présidentiel est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il faut le respecter, réagissent ces Guinéens.
Le président, quel que soit ce qu'il a fait pour le pays, quelle que soit sa beauté, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa gentillesse, la constitution dit deux mandats. Faisons deux mandats et laissons la place aux autres. Ce n'est pas un royaume, c'est un pays qui est régi aussi par des lois.
Nous ne sommes pas dans un pays de dictature ou de royaume. Le troisième mandat, non et non.
Si réellement il s'est dit de laisser la possibilité au peuple de décider, cela veut dire que réellement il envisage peut-être de modifier la constitution. Parce que forcément, quand un chef de l'État africain parle de ce genre, nous sous-entendons déjà des idées derrière la tête.
Si toutefois, monsieur le président, a cette idée-là derrière sa tête, je lui conseille vraiment de revoir autre chose, parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. La norme suprême qui est la Constitution a prévu quel est le nombre de mandats qu'un président doit faire.
Nous, on est là, on souffre, on a nos diplômes à la maison, on devient des commerçants. On n'a rien à faire quoi. Avec lui, on en a marre. Qu'est-ce qu'il donne notre président ?
S'adressant au président Condé à l'occasion de son investiture, le président de la Cour constitutionnelle avait rappelé au président réélu que le peuple renouvelle son choix pour son dernier mandat et qu'elle est façale d'interpeller le président « Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes » qu'on a crise à Kariya Camara pour la Voix de l'Amérique.
Conflit en Libye, le gouvernement libyen d'Union nationale a réclamé aujourd'hui des avions de chasse et des hélicoptères pour combattre les djihadistes de l'État islamique. Et ce, après la décision de la communauté internationale hier de lever l'embargo sur les armes à destination de la Libye pour le soutenir dans ses efforts pour asseoir son autorité sur un pays miné par les divisions politiques et la menace djihadiste. Eric Manirakiza.
La décision a été prise à l'unanimité à Vienne, en Autriche. Les grandes puissances et les pays voisins de la Libye ont compris l'ultime nécessité de réarmer Tripoli pour juguler la menace djihadiste. Dissensions politiques et vide sécuritaire ont facilité depuis 2014 l'implantation de l'EI en Libye, constituant une menace directe pour ses voisins et l'Europe. Les ministres présents à Vienne se sont dit prêts à répondre aux demandes du gouvernement libyen en vue d'entraîner et d'équiper la garde présidentielle et les forces autorisées. John Kerry et son homologue italien Paolo Gentiloni ont soutenu que la communauté internationale n'avait en revanche pas l'intention d'intervenir militairement en Libye. L'enjeu est aussi d'endiguer le flux migratoire depuis la Libye à 300 km seulement des côtes italiennes.
Toujours concernant la lutte contre le djihadisme, une deuxième semaine dans le procès ici aux États-Unis de trois Américains somaliens accusés de complot en vue de fournir un soutien matériel au groupe État islamique en Syrie. Le point avec Lionel Gaïma.
Abdullahi Youssouf, âgé de 20 ans, qui coopère avec les procureurs, a témoigné contre les trois accusés devant un tribunal de Minneapolis. Sous les questions des avocats de la défense, il semblait parfois troublé, interrogé sur les incohérences dans son récit. Youssouf a reconnu avoir menti aux agents américains au cours de ses premiers entretiens, mais que plus tard, il a dit la vérité. Youssouf est un ancien ami des accusés qui, dit-il, l'ont introduit à l'islam radical. Youssouf a été arrêté avant qu'il n'embarque dans un vol qui devrait le conduire en Syrie. Il a plaidé coupable d'avoir fourni un soutien matériel, en l'occurrence de sa personne, en tant que combattant, à l'État islamique. Mohamed Farah, âgé de 22 ans, Gouled Omar, 21 ans, et Abdirahman Daoud, 22 ans, sont accusés d'avoir organisé des rencontres à plusieurs reprises de mars 2014 à avril 2015 pour discuter du meilleur moyen pour rejoindre le groupe terroriste en Syrie. Mais ils ont été tous appréhendés par la police juste avant de prendre leur vol. Les trois ont plaidé non coupables et risquent de 15 ans à la prison à vie pour complot en vue de commettre des assassinats en dehors des États-Unis.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.